Voilà, j'ai assez parlé et puis je vais céder la parole à nos amis pour qu'ils se présentent un peu plus longuement. On va peut-être donner la parole à Bernard Monnery, s'il est d'accord.
Oui, bien sûr. Bonsoir Thierry.
Bonsoir.
Oui, tu voulais avoir des renseignements complémentaires sur Terre-Plandre, puisqu'on s'est vu l'autre jour
voilà.
Pour refaire un petit peu l'historique du
groupe. On va recommencer un petit peu ce qu'on a fait l'autre fois pour Francis Gross de Muséa. Donc, je vais te demander quelle est l'histoire de ce groupe. Donc, je rappelle pour nos auditeurs, Terre-Plandre a sorti un album en 78, c'est ça ?
En 78, oui.
78, qui a été enregistré au studio Aquarius. Alors, Aquarius, super studio de genre history qui se trouve à Genève. Pas de bêtises, où ont été enregistrés un an avant Halloween de Pulsar et où ont défilé aussi pas mal de groupes. Je pense aussi Going for the One a été réalisé de Yes, a été réalisé au studio Aquarius.
Hein, oui, John McLaughlin aussi venait enregistrer.
Voilà, Gilbert Gandy nous avait mentionné aussi qu'un album de Michael Field aussi avait été fait très peu de temps avant le Halloween. Voilà, donc vous avez enregistré cet album en 78 sur un tout petit label, j'allais dire presque du Beaujolais, puisque c'était Dionysos, il y a un petit clin d'œil.
Beaujolais Village.
Beaujolais Village, voilà. Mais c'était une bonne cuvée. Et cet album a eu quand même une certaine audience, puisqu'à l'époque il a été chroniqué dans Best, et bon, il s'est très très bien vendu. Il y a eu même un regain d'intérêt récemment au niveau du marché japonais. Voilà pour présenter le groupe. On écoutera, je crois que ce sera plus parlant et plus intéressant, on écoutera de larges extraits de cet album devenu presque mythique. Voilà, on parlera également aussi de Vortex auquel Bernard a participé, qui est un groupe aussi lyonnais qui a marqué au niveau du progressif tendance Zeul, je dirais, plutôt magmaïenne, hein, si je dis pas trop de bêtises.
Oui, Herzog.
Voilà. Bon, mais donc, maintenant, tout de suite, on démarre, j'ai assez causé, on démarre avec l'historique du groupe. Donc, quand est-ce que vous êtes rencontrés tous les deux, dans quelles circonstances, et comment vous êtes venu cette idée de faire un groupe?
On s'est rencontré avec Jacques Pina en 1970. Bon, Jacques, à ce moment-là, faisait du jazz. Moi, je travaillais avec le Chico Magnetic Band, et on avait, je dirais, peut-être pas des affinités musicales, mais enfin, le désir de faire quelque chose ensemble. Et ça s'est concrétisé en 72, quand on s'est retrouvés pour commencer à répéter dans une structure que Jacques avait plus ou moins établie à ce moment-là.
D'accord. Vous avez un passé musical, je crois. Chacun a pianoté par-ci par-là dans des groupes avant d'être dans Terre-Plandre. Tu m'avais mentionné,
oui,
je crois,
oui.
Afterlife, si je dis pas de bêtises.
Oui, moi j'ai joué dans Afterlife, oui, tout à fait au début de la création de ce groupe, oui.
Mm-hmm.
Et ensuite dans un groupe qui a un petit peu tourné dans la région lyonnaise, qui s'appelait Beast, avec un batteur qui maintenant est très connu, qui est Beps, qui joue en ce moment dans le groupe Métis.
Dans le groupe Métis que j'étais amené à rencontrer d'ailleurs. Jacques, lui, qu'est-ce qu'il a eu comme expérience musicale, même si c'est pas au sein d'un groupe, avant d'entrer dans Terre-Plandre ?
Essentiellement du jazz.
Oui.
Essentiellement du jazz, dans des boîtes de nuit, etc., etc. Bon, j'avais pas tellement fait de groupe avant, je pense que j'ai surtout fait du jazz, donc, en trio, enfin en duo, ou même seul.
Et alors cette idée, qui c'est qui a eu cette idée de dire bah tiens on va faire quelque chose ensemble et du côté du rock dit progressif au sens large du terme hein.
Bah je pense c'est le mélange un petit peu des différents styles de chaque musicien qui a amené cette démarche hein, je pense hein.
Bon, donc quand vous êtes rencontrés, qu'est-ce qui s'est passé, il y a eu un déclic, il y a eu quoi?
Oui, on se connaissait, bon, à l'époque, parce que si tu veux, tous les musiciens de Lyon gravitaient dans les mêmes endroits. C'était le Wesley Club, c'était les fins de nuit galères au Resto Gare. C'était toute une époque, si tu veux, où les musiciens avaient des relations entre eux, se rencontraient souvent. Donc moi, je savais que Jacques, bon, était un super clavier. Et si tu veux, sortant d'un groupe de rock, un peu hard quand même, j'avais envie de faire quelque chose d'un peu plus mélodique. Donc on a sympathisé avec Jacques et on a décidé de se revoir plus tard. Et c'est seulement à partir de 72 d'ailleurs qu'on a vraiment commencé à répéter avec une première vague de musiciens qui étaient venus pour la circonstance.
Premier concert, ils ont eu lieu où et quand ?
Ils ont eu lieu en 76. Le premier concert qu'on a fait donc avait été organisé par Christian Dupont, qui est un musicien aussi de Lyon, qui était devenu notre manager à ce moment-là. Et on a fait 4 concerts successifs en 76. On a fait la salle Rameau avec Sphéro d'ailleurs, je te l'avais dit,
et
tout ça.
Oui.
On a fait la salle Molière avec Terre-Plandre, donc en concert unique. Et puis on a fait la Bourse du Travail avec Catherine Ribeiro. Ça, c'était au mois de décembre 76.
76, 4 ans après la formation. Donc, vous avez répété pendant 4 ans ou qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 4 ans?
Pendant 4 ans, il y a eu, si tu veux, pas mal de choses qui se sont passées. On a essayé, si tu veux, de mettre en place une première structure et on s'est rendu compte qu'on avait du mal, en fait, si tu veux, à trouver des musiciens stables. C'est-à-dire des gens qui viennent, qui assurent des répétitions régulières et qui permettent, si tu veux, d'arriver à faire un répertoire à peu près cohérent. Donc on a eu des changements de musiciens incessants à répéter, hein, parce que les musiciens sont quand même déjà assez instables. Donc si tu veux, il a fallu un certain temps pour qu'on trouve une structure, des gens avec lesquels il soit possible vraiment de répéter dans les bonnes conditions. Oui, c'est en 76 que le groupe d'ailleurs s'est constitué définitivement, avec Michel Tardieu, donc, qui est un clavier, qui est venu de Chambéry.
Donc deuxième clavier.
Deuxième clavier. Mm-hmm. Paul Ferger, qui est un bassiste, qui est venu de l'Ardèche, que Jacques avait rencontré dans un orchestre de variété le week-end, et un batteur qui s'appelait Michel Torelli, donc de Grenoble.
D'accord. Vous avez, j'ai l'impression que vous avez donné que des concerts dans la région Rhône-Alpes, ou est-ce que vous êtes sorti un petit peu de la région l'histoire de Terrepoix?
Non, nous ne sommes pas sortis de la région, parce que si tu veux, très vite, on s'est rendu compte, après les premiers concerts qu'on a fait, qu'il fallait enregistrer. Parce que, comme je te l'ai dit l'autre jour, une musique instrumentale, si tu veux, c'est quelque chose qui est assez compact, et on s'est rendu compte que dans les concerts, les gens avaient du mal à s'accoutumer à la musique. Il fallait impérativement faire un enregistrement, que ce soit une bande ou une cassette, et la diffuser. Et d'ailleurs, la musique, telle qu'on la répétait, était plus une musique faite pour l'enregistrement que pour la scène. Donc c'était vraiment un travail parallèle qu'on faisait à côté. Et dès qu'on a eu l'opportunité d'enregistrer Aquarius, avec Serge Mezeny, qui est un ami et qui nous a produit, on est allé en studio, donc avec la même structure, à laquelle s'est rajouté Patrick Tillman, qui est le violoniste de Zao, de l'époque.
D'accord. Comment s'est passé cet enregistrement? Tu m'as raconté que ça a été quand même...
Ça a été une grosse galère.
Ouais, Vous êtes arrivé comme des inconnus, je crois, là-bas.
Oui, bon, si tu veux, on a eu un premier contact avec Christori. Bon, parce que Sphéro était passé aussi là-bas quelques temps avant. Pulsar nous en avait beaucoup parlé, parce qu'on se rencontrait assez souvent avec Pulsar. Donc on savait qu'il y avait là-bas quelque chose d'assez exceptionnel d'un point de vue technique et compétences. Ouais. Mais si tu veux, on est arrivé sans producteur artistique, donc il a fallu, on n'avait pas le choix, on est rentré par la petite porte plutôt que par la grande. Et on a joué plutôt, si tu veux, la carte de la sympathie avec Christori. Torelli, le batteur, a fait le clown. Serge Mezeny nous fabriquait des salades somptueuses et nous apportait du Beaujolais.
Oui, c'est orienté dans la restauration, d'ailleurs.
Dans la restauration, voilà. Donc, il nous a fait des bonnes petites bouffes. Et si tu veux, tout ça, ça a créé une ambiance, qui était sympathique, qui était un petit peu moins professionnelle que ce qu'on aurait pensé à ce moment-là.
Peut-être plus spontané,
Plus spontané. Mais si tu veux, dans le disque, quand même, on sent aujourd'hui encore qu'on a joué, si tu veux, quand même assez crispé. On était un peu tétanisé, si tu veux, par le lieu d'abord, par les possibilités techniques qu'il y avait. Et situé par le fait qu'on était complètement tributaire de Ristori. On ne pouvait pas, nous, prendre la démarche de tout recommencer. Par exemple, sur un bac, on ne pouvait pas tout recommencer, sachant qu'on était limité au niveau du temps.
C'était au niveau du temps, c'est pas lui qui donnait des consignes strictes, c'est parce que bon, c'est au niveau
du temps. Ristori, si tu veux, est comme tous les preneurs de son, un type qui avait travaillé, je crois, quelque chose comme 70 ou 80 concerts avec Yes, qui était un ami de Patrick Moraz, d'ailleurs, qui était venu au studio aussi nous voir. Donc, si tu veux, ces gens-là ont l'habitude en enregistrement d'avoir un producteur avec eux, qui accompagne les musiciens et qui donne des directives musicales précises. L'ingénieur du son, lui, ne prend aucune responsabilité. C'est aux musiciens, vraiment, de se déterminer, de savoir ce qu'ils veulent faire. Donc, nous,
vous n'aviez pas quelque chose en tête de ce que vous vouliez faire?
Si, on avait, si tu veux, le résultat fini, on l'avait dans l'oreille, on savait exactement ce qu'on voulait obtenir, mais comment l'obtenir, par quel procédé technique, tu vois, quel était le cheminement, ça, c'était difficile de le savoir. Donc, si tu veux, on a marché un petit peu à l'aveuglette, en confiance, et on s'est rendu compte, à la fin, si tu veux, qu'un certain nombre de choses ne s'étaient pas passées comme elles auraient dû se passer.
Ah, d'accord.
Mais c'était trop tard, et le temps était compté, en plus, en France-Suisse.
Oui, ça a été un peu fait en catastrophe, si je comprends bien. Ça a été décidé rapidement.
Ça ne s'est pas décidé rapidement, puisqu'on a décidé l'enregistrement en 78 au mois d'avril. Nous ne sommes rentrés au studio qu'au mois de juin, mais nous sommes arrivés au studio en face d'un Ristori qui était survolté, qui enregistrait à toute allure, et donc il fallait aller très très vite. Alors on s'est mis un petit peu dans l'ambiance, on a essayé de se plier un petit peu au matériel et de comprendre un petit peu comment ça fonctionnait, mais c'est vrai que c'est des conditions comme relativement exceptionnelles et c'est la première fois qu'on se trouvait dans ces conditions-là. Donc compte tenu de ça, avec le recul, je pense qu'on s'en est quand même pas trop mal sorti. Il y a des erreurs, il y a des défauts, mais...
Peut-être surtout au niveau du mixage.
Le mixage nous a posé un certain nombre de problèmes, parce que là, plus encore que pendant l'enregistrement, le mixage, il y a mille manières de faire sonner une musique, il y a mille possibilités.
Et le temps était limité pour le mixage.
C'est très souvent ce qui arrive.
Oui,
arrivant à la fin d'enregistrement, il faut bâcler alors que c'est quand même le plus important.